Radio Kapi. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs. Jacques-Yves Molima pour cette édition du journal. Voici les temps forts de l'actualité. Ils sont plus de 21 000, dont une centaine de femmes enceintes, les déplacés qui ont fui les violences entre les Teke et Yaka à Kwamout. Ils vivent dans des conditions de vulnérabilité extrême qui nécessitent une assistance urgente. Et puis, deuxième jour, hier vendredi, de la troisième édition de la mission économique zambienne à Lubumbashi en RDC, les opérateurs économiques zambiens exposent leurs produits et nouent les contacts d'affaires avec leurs homologues congolais. Enfin, près de 60 personnes, dont les autorités scolaires et des agents de l'EPST en formation à Bunia, afin de combattre les exploitations et abus sexuels liés au genre dans des écoles. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Ulrich Ndouzi, spécialiste en sauvegarde de l'environnement. Voilà tout pour les sommets. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Au Kwilu, le nombre de déplacés qui fuient les violences liées au conflit entre Teke et Yaka à Kwamout vient de dépasser 21 000 personnes. Cela après les attaques mercredi et jeudi dernier des villages Bisiala, Ngweme et Bibunga. Parmi eux, l'on compte une centaine de femmes enceintes et plusieurs enfants non accompagnés, comme le dit le directeur de cabinet du commissaire général des actions humanitaires du Kwilu, Jérémy Bikele. Selon lui, ces personnes vivent dans des conditions de vulnérabilité extrême. Il plaide auprès du gouvernement national et des partenaires humanitaires afin de leur venir en aide. Jérémy Bikele l'a dit au micro de Irène Mbouma.
Date du 20, nous étions à 16 033 déplacés, dont 3543 dans la ville de Bandundu. Mais après les affrontements dans le village Bisiala Ngweme, nous sommes aujourd'hui à 21 842 déplacés au total. Donc il y a eu un ajout de 5809 déplacés. À majorité, ce sont les femmes. Nous avons 11 426 femmes qui sont les victimes de ces violences. Pour les enfants non accompagnés, nous sommes en train d'y travailler pour que les partenaires qui soutiennent également les enfants non accompagnés de pouvoir être soutenus dans les familles d'accueil jusqu'à ce que leurs parents pourront se présenter aux besoins d'assurer la scolarité de ces enfants-là. Pour la ville de Bandundu, nous avons 9 femmes qui sont enceintes et dans le secteur Wamba, il y a 105 femmes qui sont enceintes et également leurs conditions actuellement ne sont pas bonnes. C'est ainsi que nous rappelons encore, nous lançons un message auprès du gouvernement central en particulier et aussi aux partenaires humanitaires de pouvoir intervenir de façon urgente.
Entre-temps, dans les territoires de Rutshuru, c'était le deuxième jour hier vendredi, des sit-ins et des manifestants devant le bureau de l'administrateur au chef-lieu de Rutshuru. La société civile a décrété ces sit-ins illimités, suivis d'un appel à la désobéissance fiscale et à la suspension des activités scolaires pour contraindre les FRDC à lancer les offensives sérieuses pour récupérer Bunagana et ses environs occupés par le M23. Dans un communiqué de presse diffusé jeudi soir, la société civile indique que toutes ces actions vont se poursuivre sans relâche jusqu'au rétablissement de la sécurité dans leur territoire. Elle a par la même occasion condamné la répression sanglante de la police lors de cette première journée des manifestations. Enfin, la société civile de Rutshuru présente ses condoléances à la famille de Bizimana Sebari, 34 ans tués par balle et compatit avec les 4 autres blessés qui sont pris en charge à l'hôpital général de Rutshuru. Aucun incident n'a été signalé ce vendredi. Et puis au sud Kivu, la haute cour militaire siégeant en audience foraine à l'auditorat militaire de Bukavu a rendu son verdict dans le procès en appel de l'ex-milicien Chance. La plus haute instance de justice militaire du pays a confirmé la peine de prison à perpétuité de l'ancien seigneur de guerre. Pour rappel, le condamné Chance, autoproclamé colonel, et ses hommes avaient sémé un climat de terreur dans les territoires de Kabare. L'ex-milicien a été arrêté dans le parc national de Kahuzi-Biega en mai 2020 où il menait ses activités criminelles, attaques armées, tortures, viols, enrôlement d'enfants. Ce procès en appel a bénéficié de l'appui technique, financier et logistique de plusieurs organisations, dont la MONUSCO, à travers la cellule d'appui aux poursuites judiciaires, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et l'organisation Trial International. Et puis en plus bref, dans le territoire de Beni, enlevé par des inconnus armés, la soirée de dimanche dernier, dans sa résidence à Mousséa, dans le Bachou, le docteur Augustin Kialouaï, médecin traitant au centre de santé de cette localité du groupement Issale-Kasungwere, a été relâché jeudi soir. De son côté, le docteur Godefroy Kombi Mbeo, secrétaire exécutif du syndicat national de médecins Sinamed, Béniville et Territoire, salue l'implication des autorités pour retrouver leurs collègues. Il indique que c'est autour de 19h local qu'ils ont été alertés sur son relâchement par ses ravisseurs à Mousseya après 4 jours de captivité. Les ravisseurs du docteur Augustin Kialouaï exigeaient depuis mardi dernier et par voie téléphonique aux membres de sa famille de verser une somme d'argent avant sa libération, indique notre source. Autre nouvelle. Le problème de l'Itourie, il est itourien et la solution doit venir de nous, les filles et fils de l'Itourie. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, qui l'a dit jeudi à Bounia à l'occasion de la visite du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Selon lui, il suffit que les groupes armés déposent les armes et cessent de tuer leurs frères, la paix sera effective dans cette province. Pour ce qui est de la visite du Premier ministre, il a écouté les attentes de la population sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette province. Ce qui reste, c'est la décision de l'autorité suprême après les rapports qui lui sera transmis par le chef du gouvernement, a-t-il ajouté. Sami Adoubango est au micro de Martial Kiza Biamungu.
Ce que nous devons retenir, nous sommes arrivés à une tournure décisive par rapport à l'état de siège. On a évalué l'état de siège comme d'habitude. Et nous avons eu les informations auprès de toutes les couches. Nous avons aussi écouté la position des gestionnaires directs de l'état de siège. Là, je parle du gouverneur et son équipe. Maintenant, ça reste au niveau de l'autorité qui est le premier ministre qui pourra faire ce rapport. Là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par la suite? Le problème de l'Itourie, il est itourien. Et la solution, je signe, doit commencer par nous-mêmes, les fils et filles itouriens. Preuve, cessez le feu, Codeco, FRP. 2 mois, Tchinia Kilima. 2 mois, il y a une baisse de tuerie en Itourie. Résultat de dialogue entre les communautés. Dialogue seulement. 2 mois, il y a eu baisse de. Donc ça démontre qu'à notre niveau, nous pouvons aussi trouver solution. Quand je vous pose la question, mais qui a dit que nous puissions prendre les armes? Qui était derrière nous? Et comment nous avons eu à prendre les armes? Et comment est-ce que nous ne pouvons pas aussi laisser et déposer ces armes-là? Voilà des questionnements auxquels nous-mêmes nous pouvons donner réponse.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs. Deuxième jour hier vendredi de la 3e édition de la mission économique zambienne à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Les opérateurs économiques zambiens exposent leurs produits et nouent les contacts d'affaires avec leurs homologues congolais pour le développement de leurs affaires. Jean Gandou pour le détail.
Ce sont 50 entreprises zambiennes qui exposent leurs produits, principalement les produits alimentaires, les semences, les énergies renouvelables, les aliments pour bétail et autres produits manufacturés. Si quelques-uns des exposants ont déjà commencé à vendre, les autres attendent le dernier jour pour écouler leurs marchandises après l'exposition, ce qui n'empêche pas aux potentiels clients de passer les commandes. Les stands les plus visités sont notamment ceux qui offrent les énergies renouvelables et les semences ainsi que les engrais chimiques. Lors de la cérémonie d'ouverture, Patrick Mouland, président de la FEC au Katanga, a émis les vœux de voir les opérateurs économiques, au-delà de la simple exposition, parvenir à nouer les relations d'affaires avec leurs homologues congolais. C'est pratiquement chose faite pour Francis Piri de la société Planted Health Limited et qui s'en félicite. D'ailleurs.
Nous sommes très contents. On a déjà rencontré beaucoup de les amis qui veulent faire les affaires avec nous au Zambie. Ici au Congo, ici, il y a beaucoup de marchés. Donc, si on travaille ensemble, on va vraiment ajouter quelque chose pour l'économie de les deux pays.
Notons que la plupart des entreprises présentes ont émis le vœu de voir les opérateurs économiques congolais exposer aussi très prochainement leurs produits en Zambie pour bien consolider les échanges commerciaux et les opportunités d'affaires. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis des réactions continuent de tomber après le discours du chef de l'État à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Certaines ONG saluent son annonce concernant l'appel d'offres pour l'exploration de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers congolais. C'est le cas de l'Asbel Spafeco, survie de la planète grâce aux forêts et aux eaux du Congo. Pour cette structure, l'exploration des blocs pétroliers et gaziers contribuera au développement de la RDC et à son économie inclusive. En contrepartie, la SPAFECO exige du gouvernement que 10% du montant consenti pour l'exploration de chaque bloc soit dédié à la restauration des paysages et à la conservation de la nature. Maître Namuto Christian, coordonnateur de la SPAFECO, dans cet extrait choisi par Rachel Kessembang.
L'exploitation de ces blocs pétroliers et gaziers est une solution salutaire pour l'environnement. L'exploration permettra à la RDC de prétendre à une certaine croissance économique. Cependant, l'exploitation doit être durable en appliquant certains principes du droit de l'environnement. Et il nous semble qu'en RDC, un tel texte législatif interdisant l'exploration des blocs pétroliers et gaziers n'existe pas. La SPAFECO relève que cette exploration pourrait nuire irréversiblement à l'environnement et pourrait accentuer les changements climatiques. Il s'agit d'un risque très élevé qu'il faille analyser en amont pour bien se préparer au futur. La SPAFECO exige du gouvernement congolais réaliser en amont des études sérieuses de tous les impacts que cette exploration pourra causer à l'environnement. En contrepartie de toutes ces explorations, la SPAFECO exige du gouvernement congolais d'affecter à la restauration des paysages forestiers, à la conservation de la nature, au moins les 10% du montant consenti pour l'exploration de chaque bloc.
À Beni, plus de 1000 personnes ont trouvé du travail pour une durée de 5 mois dans le projet des travaux à haute intensité de main-d'œuvre de Fonds social de la République. Parmi les travaux contenus dans ce projet figurent la réhabilitation des infrastructures à base communautaire, l'adduction d'eau potable et tant d'autres. De part et d'autre, les attentes sont grandes et les demandes sont nombreuses, à indiquer le responsable de ce projet à Beni, Marc Marofimbo, pour des précisions.
Intitulé Step 2, ce projet est exécuté dans plusieurs villes des provinces telles que Kasaï Central, au nord Ubangi, au nord Kivu et ailleurs. À Beni, plus de 1000 demandeurs d'emploi sont bénéficiaires de ce projet de travaux à haute intensité de main-d'œuvre du Fonds social de la République. L'un des bénéficiaires indique que c'est un projet salutaire car les jeunes étaient désœuvreux. Jordan Mouindo. Nous sommes passés, nous avons décroché notre chance de travail. Personnellement, j'attendais ce travail car nous sommes désœuvrés. Le gouvernement a vu que les jeunes risquent de se perdre, raison pour laquelle il a songé de les occuper. Ce travail nous donnera accès à plusieurs projets car vous savez que les jeunes ont plusieurs projets dans la vie. C'est un projet arrivé au bon moment, a estimé pour sa part Bethel Ketia, qui pense que ces projets inachevés pour faute de moyens seront ressuscités.
Bon, je m'attendais pour le business. C'est arrivé à un bon moment. C'est ce que je peux dire, c'est à un bon moment vraiment.
Parmi les bénéficiaires figurent plusieurs déplacés internes qui sont dans la ville de Beni. Signalons que chacun des 30 quartiers que compte la ville de Beni avait un quota de 300 bénéficiaires, dont 250 seront en activité directe et 50 réservistes. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Au sud Kivu, l'ASBEL SOPROD, Solidarité pour la protection des droits de l'enfant, mobilise l'opinion congolaise pour une justice climatique en perspective de la COP 27 à venir. Cela se traduirait par un respect des accords signés par la RDC au niveau mondial pour la préservation de la riche biodiversité congolaise. Voilà pourquoi cette ASBEL a organisé une marche ce vendredi dans les rues de Bukavu. La procession est partie de la mairie de Bukavu en passant par l'Assemblée provinciale jusqu'au gouvernorat de province où un mémorandum a été lu. L'essentiel des revendications des manifestants avec Jean-Claude Mwarika, membre de SOPROD. Il est au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
Nous voulons que les pays concernés qu'ils évitent de biaiser ou de ne pas tenir compte des textes qu'ils ont signés par rapport au respect du climat en soi. Il y a les accords de Paris, il y a les accords de Paris qui ont été signés depuis 2015. Il y a même la conscience de notre pays. Certains articles qui prônent sur le respect de l'environnement, de la nature, mais on ne tient pas compte de tout ça.
Tenir compte, par exemple, des accords de Paris en RDC ici à Bukavu, cela reviendrait à quoi?
Ça reviendrait à respecter les aires protégées ou les aires de l'UNESCO qui sont des patrimoines mondiaux aujourd'hui. Par exemple, le parc de Virunga, qui est un parc et un patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est aujourd'hui envahi par des entreprises pétrolières, qui veulent exploiter le pétrole dans les Virunga, alors que dans Virunga, il y a beaucoup d'espèces rares au niveau mondial qui y vivent. Il y a des espèces d'animaux, des espèces d'arbres, il y a beaucoup de populations, plus de 1 million d'habitants qui vivent le long. Tout ça, si jamais on exploitait le pétrole dans les Virunga, comprenez que toutes ces populations vont devoir abandonner leurs terres, vont devoir migrer vers d'autres régions dans lesquelles ils auront du mal à s'adapter facilement.
Actualité internationale.
En international, les chefs d'État de la CEDEAO ont finalement décidé d'appliquer une batterie de sanctions contre la Guinée, avec notamment un gel des avoirs et une interdiction de voyager pour les responsables de la transition. Les réactions n'ont pas tardé à Conakry. Le porte-parole du gouvernement de transition guinéen, Ousmane Gaoul Diallo, déplore que la CEDEAO ait privilégié les sanctions sur une démarche d'accompagnement de la Guinée. La transition guinéenne ne doit pas se discuter simplement sur sa durée, mais sur son contenu. Selon lui, il est essentiel de prendre le temps de régler les problèmes du fichier électoral guinéen avant d'aller aux élections.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Ulrich Ndouzi, spécialiste en sauvegarde de l'environnement au sein de PERS, projet d'équité et de renforcement du système éducatif. Près de 60 personnes parmi lesquelles figurent des autorités scolaires et des agents de l'enseignement primaire, secondaire et technique, sont en formation à Bounia. C'est pour les outiller afin qu'ils soient en mesure de combattre les exploitations et abus sexuels liés au genre dans des écoles. Pour en parler, nous recevons donc Ulrich Ndouzi qui s'entretient ici avec Jean-Claude Lokidi.
Ulrich Ndouzi, bonjour.
Bonjour.
Un atelier sur la gestion des plaintes d'exploitation et abus sexuels, c'est pour quel but?
Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme sur l'école sécurisée et inclusive et l'engagement citoyen. Cette réforme, en fait, en milieu scolaire, ça vient, comme vous l'avez écouté dans l'intitulé de la réforme, sécuriser l'école. On a constaté qu'au niveau de l'école, si vous voulez, ou bien en milieu scolaire, il y avait des abus sexuels, des harcèlements sexuels qui étaient en fait faits vis-à-vis du personnel enseignant, des élèves, voire même au niveau des parents des élèves. Il n'y avait pas un système qui pouvait faire en sorte que tous ces abus soient dénoncés et soient gérés conformément à la loi pour que l'école devienne vraiment un milieu sécurisé et inclusif. Il y avait de grossesses non désirées au niveau des écoles, il y avait même des décrochages, il y avait des élèves qui abandonnaient l'école à cause de tous ces abus.
Quel est l'état de lieu justement de l'exploitation et abus sexuels dans nos écoles? Est-ce que la situation est alarmante? Surtout dans des milieux ruraux où, comme vous le savez, le sexe est encore tabou. Comment vous pensez que dans des milieux comme ça, on peut encore, un parent ou un élève ou une élève peut vraiment aller accuser une autorité scolaire?
Je ne dirais pas que la situation est catastrophique, mais je crois que je dois me permettre de dire que la situation est quand même grave. Et grave, c'est vrai. Il est difficile avec nos cultures de fois de dénoncer, mais le projet a quand même pris des dispositions parce que il y a plusieurs canaux pour dénoncer. Nous avons même un numéro vert qui est 178. C'est un numéro qui est installé au niveau du ministère. Mais il y a aussi un numéro 49-55-55. C'est un numéro vraiment pour dénoncer des cas liés à la violence basée sur le genre. Parce que ça demande aussi directement la prise en charge de la survivante juste après la dénonciation.
Après avoir dénoncé, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il y a l'étape de la justice où la personne incriminée peut-être sera jugée et condamnée pour décourager ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le programme, le projet prévoit?
Bon, le système, en fait, prévoit tout un paquet de prises en charge juridique, prises en charge médicale et psychosociale. Mais après dénonciation, la première étape, nous veillons d'abord à ce que la survivante soit orientée vers les prestataires de prise en charge. Donc si maintenant à ce moment-là, la survivante ou les survivants donnent son consentement pour l'accompagnement juridique, il y a des prestataires qui collaborent avec les projets, qui s'en occupent pour que le bourreau ou bien les présumés auteurs soient condamnés, si on peut dire comme ça.
En ce qui concerne le point sexuellement transmissible, vous pensez que vraiment vous pouvez arriver à relever ces défis pour mettre fin à cette vieille pratique pendant que c'est la personne qui sollicite les points qui, en principe, doit saisir ou doit dénoncer? Pensez-vous vraiment mettre fin à cette pratique?
Oui, parce que la réforme a prévu la signature du code de bonne conduite par le personnel enseignant. Je crois que le code de bonne conduite existait, mais ce projet a encore insisté sur ces comportements liés à l'abus sexuel. Donc on a insisté sur ce code et les enseignants ont signé. Et déjà le fait qu'ils ont signé l'acte d'engagement, ils savent que d'abord ils peuvent pas encore continuer avec ces habitudes. Donc ce sont des mesures préventives que nous avons
mises en place. Est-ce qu'il y a des sanctions par exemple?
Oui, il y a des sanctions conformément au régime disciplinaire. Les systèmes en fait existaient, mais nous pensons...
Il y a quoi? La révocation, ramener à la justice?
Exactement, la révocation, on peut même ramener le présumé au terrain en justice si et seulement si la survivante donne son consentement.
Ulrich Ndundi, je vous dis merci.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Polydor Basunga, coordonnée et supervisée par Noéla Luzitu. Merci de nous avoir suivis.